franceinter.fr.
Bonjour à tous, nos invités ce matin dans ce 7-9, 8h-10, on parlera de la grève dans les transports avec le patron de la fédération CGT des cheminots, Gilbert Garrel, invité de Clara Dupont-Moneau. Et puis à 8h20, c'est Alain Juppé, le maire UMP de Bordeaux et membre de la Troïka ou du Triumvirat ou du Quatuor, puisque Luc Chatel est devenu secrétaire général de l'UMP, qui va diriger le grand parti de la droite et du centre. Vos questions pour Alain Juppé au 01 45 24 7000 dans Interactive. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Inter. Il est 7h. Voici le journal d'Hélène Chilly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. La moitié des cheminots en grève, sans doute aujourd'hui, à quelques jours de l'examen de la réforme ferroviaire. Ce sera compliqué sur les rails et les routes. Avec le mouvement européen des taxis, on fera le point dans un instant. L'UMP ne s'est pas déchiré un compromis trouvé hier soir au bureau politique. Le trio devient quatuor. L'actualité, encore le procès Nicolas Bonnemaison, ancien urgentiste accusé d'avoir provoqué la mort de 7 patients en fin de vie. Beansport la joue perso, la chaîne payante ne veut pas commercialiser les extraits des matchs qu'elle va diffuser pendant le mondial. Et puis le cinéma, la sortie de la semaine, Film Inter, on frissonne avec Black Call.
À suivre dans un quart d'heure le zoom de Benjamin Illy sur les enlèvements d'enfants des couples binationaux. Une étude sur la consommation signée de l'INSEE dans l'édito éco de Dominique Seux. Et puis chez André Manoukian, une découverte musicale comme chaque matin.
France Inter.
Pas de grâce matinée ce matin. Si vous devez prendre le train, vous vous êtes sûrement réveillé plus tôt que d'habitude. Anticipez, trouvez une alternative, car la SNCF a prévenu, la mobilisation des cheminots sera forte. Près de la moitié devrait cesser le travail. 70% des grévistes attendus sur le réseau Paris Nord et Paris Est. Marion Lourd, vous êtes en direct de la gare de Lyon à Paris. Ce matin, ça donne quoi chez vous ?
Pas mal de monde hein, déjà sous les panneaux d'information autour des gilets rouges de la SNCF et sur les quais notamment du RERD avec ce message en boucle. Dans le hall Méditerranée, deux jeunes retraités avec valises et lunettes de soleil prennent leur mal en patience.
On part déménager un appartement à Toulon. Bon, on devait partir à 10h moins le quart et le train je ne prends pas souvent. Et pour une fois, je ne prends pas l'avion, et bien je tombe sur une grève.
Sur l'axe sud-est, il y a en effet un TGV sur 3 seulement, 1 sur 2 vers l'Espagne. Mais le plus gênant, c'est sur les trains du quotidien, comme le RERD sur sa partie sud. Luce s'est levée très, très tôt pour rejoindre la maison de retraite où elle travaille à Brétigny.
Il y a une heure de retard, donc du coup, je suis obligée d'attendre. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre moyen, je suis obligée d'attendre.
Et est-ce que vous savez pourquoi il y a grève ?
Non, je ne sais pas du tout. C'est pas une bonne chose, hein. Sincèrement, c'est pas une bonne chose du tout. Les gens ont besoin d'aller travailler, c'est très perturbant, c'est pas une bonne chose.
Difficile à comprendre donc pour beaucoup en effet. Luce devrait aussi rentrer plus tard chez elle ce soir et ça pourrait durer plusieurs jours puisque la grève est reconductible.
Marion Lourd en direct de la gare de Lyon avec l'aide technique de Gilles Gallinaro. Petit rappel des prévisions, un TGV sur deux sur les axes nord et est, 1 sur 3 partout ailleurs. Ça roule pour Ouigo, le train low cost et l'Eurostar. Mais il n'y aura qu'un TER sur 3 en moyenne et dans le sud-est, 1 sur 6 seulement entre Cannes et Nice, 1 sur 7 entre Nice et Marseille. Des perturbations sur les lignes BC et D du RER. Un site pour avoir toutes les infos, infoline.fr et un numéro vert pour les grandes lignes, le 0805 90 36 35. Et si on rajoute à tout ça la mobilisation des taxis, ça risque de coincer sur les routes. Les chauffeurs promettent eux aussi une forte mobilisation dans toute l'Europe contre la concurrence des véhicules de tourisme qu'ils jugent déloyale. En région parisienne, ils se regroupent en ce moment du côté des aéroports. Nous irons à Orly dans le journal de 7h30 et puis dans le sud-est, gros cortège attendu à Marseille. Spectacle gratuit et des plus vivants en guise de protestation. C'est entièrement nu que des artistes ont accueilli la ministre de la Culture hier après-midi pour l'inauguration d'une série d'expositions au Familistère de Guise dans l'Aisne. La nouvelle convention chômage les plonge dans le plus grand dénuement. Vous avez compris le message des intermittents qui mobilisent aussi désormais à Toulouse. 8 théâtres en grève aujourd'hui, près d'Angers également. Le festival de théâtre d'Anjou, la soirée d'ouverture a été annulée.
Il est 7h04 sur Inter. L'UMP a donc trouvé un compromis hier soir.
Celui qu'on attendait, un trio Juppé-Raffarin-Fillon pour assurer l'intérim jusqu'au congrès de l'automne et la nomination de Luc Chatel au poste de secrétaire général du parti. Il y a quand même eu 2 heures de débat et des questions qui restent en suspens. Quelle date exacte pour le congrès? Y aura-t-il une primaire? Karine Bécart était à la sortie du bureau politique hier soir à Paris.
Devant le siège de l'UMP, des militants sont là, soulagés. Le parti n'a pas explosé. Mieux, tout le monde a visiblement su se mettre d'accord et valider la mise en place du triumvirat. Juppé, Fillon et Raffarin qui jouent l'humilité.
Il ne s'agit pas de prendre la parole pour une troïka quelconque, il s'agit de redonner la parole aux militants. Ce n'est pas une mission de direction, c'est une mission de transition.
Il n'empêche, le triumvirat récupère les rênes du parti jusqu'au prochain congrès. Une vraie victoire pour les juppéistes, pour les fillonistes aussi. Éric Ciotti n'a pas mis longtemps à tourner la page copée.
On va, à partir de ce jour, tourner le dos au clivage, aux oppositions stériles, à la tête de l'UMP. C'est ce qui est positif et c'est ce que je retiens.
Aux côtés des 3 anciens premiers ministres, un simple secrétaire général, Luc Chatel, des décisions administratives et financières pourront être prises. Bref, un sacré revers pour les sarco-copéistes. Jean-Claude Gaudin, Roger Karoutchi ont préféré quitter la réunion, mais pas Nadine Morano.
Chacun avait à cœur, pour les militants, de sortir de cette crise et de trouver la solution qui devait nous permettre de continuer à l'UMP.
Restent certains sujets qui n'ont pas été abordés, comme les primaires de 2016. Ils le seront au prochain bureau politique qui désormais devrait se réunir chaque mardi.
Et réaction du démissionnaire Jean-François Copé, la formule de la sagesse a été trouvée. Rien ne va plus chez les Le Pen. Père et fille ne se parlent plus depuis hier. La mise à l'écart du blog de Jean-Marie Le Pen, du site internet du Front National. Un urgentiste face au juge, Nicolas Bonnemaison, est accusé d'avoir provoqué la mort de plusieurs patients en fin de vie en 2011, sans en informer l'équipe ou les proches. Les familles des 7 victimes n'ont pas porté plainte. Certaines viendront même le soutenir à l'audience, aujourd'hui devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Pour tout comprendre, dossier complet sur franceinter.fr. Que va donner le comité central d'entreprise très attendu cet après-midi chez Bouygues Télécom? Les salariés le redoutent parce que la direction devrait annoncer la suppression d'au moins 1500 postes sur les 9000 que compte l'entreprise, Julie Bloch-Lenné.
Entre 1500 et 2000 postes supprimés, le patron de Bouygues Télécom lui-même l'a confirmé. L'opérateur compte proposer d'abord des départs volontaires et des reclassements, mais n'exclurait pas des licenciements si nécessaire. Premier touché, les salariés du marketing ou de l'informatique. Ceux des boutiques ou des centres d'appel, en revanche, seraient épargnés. Et Bouygues Télécom veut aller vite. Tout devrait être bouclé d'ici la fin de l'année. L'opérateur veut donc faire des économies, mais pour se redresser, il compte aussi gagner des clients. Il va donc simplifier ses offres mobiles. Il y a aujourd'hui environ 700 forfaits différents. Il n'y en aura plus qu'une dizaine. Surtout, Bouygues Télécom veut s'imposer sur le téléphone fixe. Sa stratégie, baisser les abonnements d'environ 10 euros et bousculer le marché du fixe comme Free l'a fait pour le mobile. Avec ce plan, Bouygues Télécom espère résister seul et repousser le moment où il sera contraint de s'allier avec l'un de ses concurrents, comme Free ou par exemple Orange.
Bouygues Télécom très affecté par l'arrivée de Free, fragilisé par l'échec de sa tentative de rachat de SFR. Au premier trimestre, l'opérateur a encore vu son chiffre d'affaires chuter de 5%. Parler trop fort à côté de son voisin de bureau, couper la parole à un autre pendant une réunion, zapper le bonjour, ça plombe l'ambiance. Près d'un salarié sur deux d'y subir ses incivilités au travail. 33% en souffrent, c'est le résultat d'une enquête du cabinet de conseil en management Eléas. Et vous ne pourrez peut-être même pas compter sur le mondial de foot pour vous détendre. Faudrait encore que vous puissiez voir les images. Et à ce jeu-là, beIN Sport ne fait pas dans le fair play. La chaîne payante, co-détentrice des droits de retransmission avec TF1, refuse de commercialiser les extraits des rencontres dont on sert ensuite pour les émissions ou les journaux télé. C'est une information du site internet L'Express. Bonjour Nicolas Blanza.
Bonjour.
Ça, c'est une première.
Oui, lors des précédentes Coupes du Monde, les détenteurs des droits rétrocédés, moyennant finance, évidemment, de courts passages des matchs, comme les buts, hein, bien sûr, ou encore les moments spectaculaires. Mais pour l'instant et pour la première fois de l'histoire, donc, beIN Sport ne veut pas en entendre parler et fait valoir un droit de blocage. Il faut dire que la chaîne Qatari a déboursé près de 50 millions d'euros pour acheter à TF1 les droits de diffusion en France de l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde. beIN Sport a donc le droit de faire ce qu'elle veut en matière de commercialisation des extraits. Ça veut dire que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne payante, eh bien vous ne verrez des images du mondial nulle part, sauf sur TF1 qui a gardé les droits de diffusion pour 28 matchs, dont ceux de l'équipe de France. Mais aucun extrait sur toutes les autres chaînes qui ont pour pourtant déjà communiqué sur des débats et des magazines du Mondial avec promesse de diffusion des images. Et malgré les relances de toutes ces télés depuis plusieurs jours auprès de beIN Sport, eh bien rien ne semble bouger. Peut-être une manière pour la chaîne qatarie de faire monter la pression, mais aussi les enchères à la veille du match d'ouverture. En tout cas, c'est un véritable climat de crise qui anime en ce moment le paysage audiovisuel français.
Nicolas Blanza, merci. Le Mondial de foot, ça commence demain. Brésil-Croatie, premier match. Optimisme affiché hier soir de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Le Brésil est prêt, sûr et en dehors des terrains. L'étranger encore en Irak. L'offensive des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Mossoul, la deuxième ville du pays, est désormais entre leurs mains. Washington s'inquiète, c'est une menace pour toute la région. Aux États-Unis, justement, après une nouvelle fusillade dans un lycée de l'Oregon, un lycéen et le tireur sont morts. Le coup de colère de Barack Obama, le président américain qui n'a jamais convaincu le Congrès de voter une loi restreignant le port d'armes, appelle à une prise de conscience.
Ma plus grande frustration en tant que président, c'est que jusqu'à présent, notre société n'a pas voulu prendre des mesures minimales pour laisser les armes hors de portée de gens qui peuvent causer des dommages considérables. Nous sommes le seul pays développé au monde où tout cela se produit. Et cela n'arrive pas qu'une fois par semaine. C'est devenu quotidien. La violence par arme à feu atteint un niveau jamais vu. Aucun autre pays développé sur la planète ne pourrait supporter cela. Bien sûr, nous avons une tradition différente. Nous avons le deuxième amendement de la Constitution. Historiquement, nous respectons le droit de porter des armes et je respecte ce droit. Mais l'idée que, par exemple, il n'y ait aucune vérification sur votre passé, pour être sûr que quand vous allez acheter une arme, il y a un contrôle juste et régulier, et on sait qui vous êtes, et que donc tout le monde peut traverser la rue et se procurer en magasin un pistolet semi-automatique, cette idée n'a absolument aucun sens.
Le discours de Barack Obama suivi à Washington par Frédéric Carbone. Après l'incendie d'un immeuble à Aubervilliers, une troisième personne est morte, le mari d'une autre victime, une jeune femme enceinte. Parmi les blessés, il y a Mohsen, un sans-papier qui a eu beaucoup de courage et a aidé à sauver plusieurs de ses voisins. Le préfet de Seine-Saint-Denis tentera de lui obtenir un titre de séjour, il l'a promis hier.
Les sorties cinéma cette semaine, et d'abord on se fait peur.
Surtout si on va voir Black Hole du chinois Diao Yinan, il explore la société avec les armes du polar et il séduit Laurence Perron.
La référence assumée du réalisateur, c'est le Faucon Maltais de John Huston. Et les deux films ont effectivement en commun une intrigue un peu obscure, mais prétexte au déploiement d'un très très grand cinéma. Dès les premières images de Black Hole, on est littéralement sidéré par la puissance de la caméra de Diao Yinan. Et qu'importe, si ce que l'on suit, c'est un corps démembré qui passe de wagon de train en benne de camion en tapis de chaîne d'usine. Il est dit qu'on est en 1999 et qu'un enquêteur, passablement alcoolique, tente de recoller les morceaux en vain. 5 ans plus tard, l'affaire ressurgit, de nouveaux crimes avec des corps puzzle et l'épouse du premier démembré dans le viseur du flic qui désormais œuvre en solo, Diao Yinan.
J'aime les accidents parce que pour moi, le cinéma, ce sont ces deux choses à la fois, une maîtrise extrême et en même temps rester disponible à tous les incidents que propose la vie, le destin et pourquoi pas Dieu.
C'est un film noir qui exploite tous les codes du genre, autant vous dire que ça claque et que ça gicle sévère à l'écran, mais avec une grâce et une poésie rare. On soupçonne même Diao Yinan d'avoir emprunté à Godard ses collages lumineux de la fin des années 60. Le titre en mandarin dit d'ailleurs beaucoup mieux qu'en français l'ampleur de l'entreprise. Feu d'artifice en plein jour.
Black Hole dans les salles cette semaine et c'est un film inter.
Merci, c'était Hélène Philly. Pour le journal, c'est l'heure de la chronique brésilienne de Julie Pietri, toujours à Rio ce matin, à la veille du début du Mondial.
Aujourd'hui, ne me parlez plus du Brésil, dites Brasil. J'oublie la langue française, la marseillaise, je n'ai que faire de l'arrivée des Bleus ici, de leurs entraînements et étirements. Moi aujourd'hui, je suis brésilienne. À la veille du match d'ouverture, je me glisse dans les fringues d'un supporter.
Est-ce que je suis déjà bien équipée pour être supporter du Brésil ?
Je crois qu'il te manque quand même quelques trucs.
Visiblement, le t-shirt blanc et le jean, c'est à écarter si on veut supporter le Brésil. Dans le magasin de Jacqueline à Rio, le code couleur, c'est vert jaune.
Vous venez ? Alors bien sûr, il vous faut une corne de brume pour les buts du Brésil, un collier de fleurs que tu portes en bandoulière et une perruque pour être plus originale, modèle court ou long.
Ça m'irait bien à moi ?
Oui, mais je vous vois plus avec un serre-tête à fleurs genre petite fissage. Là, vous êtes prête pour la coupe. Après, on a aussi des choses pour décorer voitures et maisons. Tout se vend très bien.
Go Brasil !
Là, on vient de quitter Jacqueline. On est dans la rue, à quelques mètres de la boutique. Et effectivement, ici, tout est décoré. Alors, on n'est pas n'importe où. La Rua Pereira Nunes participe à un concours de beauté, la plus belle rue du mondial. Bernard est l'un de ceux qui l'a transformée.
As paredes têm muro.
Sur les murs, on a peint Ayrton Senna, la Coupe du Monde de 1950 et le Maracana. Et au-dessus de nos têtes, il y a 7 km de banderoles aux couleurs du Brésil, vertes, jaunes et blanches. Si on fait tout ça, c'est parce qu'on aime notre équipe, on a confiance dans nos joueurs. On ne se préoccupe pas de politique, parce que ce n'est pas ici qu'on va régler les problèmes. Aujourd'hui, tout le monde vient au Brésil. On veut apporter de la fête et de la joie, montrer ce que le Brésilien peut apporter au monde.
Là, Bernard ne pense pas du tout au match de demain contre la Croatie. Il rêve plus fort. Il rêve d'une 6e victoire du Brésil en Coupe du Monde.
Julie Pietri, à demain, dans un instant, le Zoom sur Inter.
L'infotrafic SNCF.
Aujourd'hui, le trafic des trains est perturbé. Pour connaître les trains qui circulent, allez sur sncf.com.
Ou par téléphone, appelez pour le réseau transilien le 0805 700 805.
Et pour les TER et les trains grandes lignes en France et en Europe, le 0805 90 36 35. Appel gratuit depuis un poste fixe.
C'est l'heure de notre rendez-vous Maïf Expertise en direct. Écoutons la question d'Olivier, 35 ans, et la réponse de Jacques, notre spécialiste en droit de la famille.
Bonjour, j'ai deux enfants mais je suis séparé. Alors s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je peux désigner par testament un membre de ma famille comme tuteur ?
Jacques, votre réponse.
La loi est claire. Si un parent décède, l'autre devient automatiquement le seul titulaire de l'autorité parentale. C'est-à-dire le seul parent responsable de l'éducation des enfants et de la gestion de leurs biens éventuels. Donc un testament n'est pas nécessaire.
Merci Jacques. À lundi pour un nouveau rendez-vous Maïf Expertise en direct. Et pour vos autres questions, venez rencontrer des experts indépendants dans les délégations Maïf pendant les mercredis du droit familial. Plus d'infos sur maïf.fr.
Il est 7h16.
France Inter, Patrick Cohen, le 7-9.
Pour aborder ce sujet des enlèvements d'enfants de couples binationaux, on se souvient d'abord de ce témoignage exclusif. C'était il y a un mois sur France Inter, celui de Thomas Luigi, père de Paola, une petite fille de 5 ans. Il ne l'a pas vue depuis bientôt un an car sa mère chinoise est partie avec elle à Pékin.
S'il vous plaît, aidez-moi. C'est une petite fille française qui n'a rien fait, qui est loin de la France, qui est loin de sa famille. S'il vous plaît, aidez-moi.
Bonjour Benjamin Elie.
Bonjour.
C'est vous qui aviez rencontré Thomas Luigi il y a un mois. Il n'a désormais plus aucun contact avec sa fille. On parle alors d'enlèvement international d'enfants.
Car aujourd'hui, les échanges universitaires, la circulation plus facile des personnes partout dans le monde augmentent le nombre de couples binationaux et donc de séparations. Conséquences, ces enlèvements se multiplient. D'ailleurs, ce matin, nous avons pu obtenir des chiffres. Le Quai d'Orsay gère actuellement 400 dossiers de déplacement illicite d'enfants, soit environ 600 enfants concernés. Le détail des nationalités est gardé secret pour raisons diplomatiques, nous dit-on. Et parmi ces enfants déplacés, il y a donc Paola, la fille de Thomas Luigi. Une audience avec une juge chinoise s'est tenue à Pékin le 13 mai. Thomas Luigi est revenu plus dépité que jamais.
J'ai évidemment demandé à revoir ma fille. La juge a été d'accord, a demandé à ma femme un rendez-vous pour que nous puissions nous voir tous les trois. J'avais son ours en peluche qui ne me quitte dans aucun voyage. Elle n'est jamais venue. Je renouvelle l'appel à l'aide, évidemment. Aidez-moi, monsieur le président. Aidez-moi, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le Premier ministre.
Le recours, le dernier, c'est François Hollande. Aidez-moi.
Encore un appel à l'aide, la même détresse en écho, celle de Maud Versini, un cas emblématique, très médiatique depuis qu'elle a interpellé François Hollande durant sa visite d'État au Mexique en avril. Elle n'a pas vu ses enfants depuis 910 jours. Ses jumeaux, Adriane et Sofia, 10 ans, et Alexis, 8 ans, ont été enlevés par leur père Arturo Montiel, ex-gouverneur de l'État de Mexico, oncle de l'actuel président. Il est très influent. La seule solution, selon Maud Versini, transformer cette affaire familiale en affaire politique.
J'en appelle effectivement au secours recours à François Hollande, qui est un père de famille et qui ne peut pas laisser une mère désemparée sans avoir revu ses enfants aussi longtemps, sans rien faire, les bras croisés.
Est-ce que cette aide est venue? Il y a eu une déclaration, il l'a dit, François Hollande, lors de ce voyage.
La France sera toujours à vos côtés. Elle n'abandonne aucun ressortissant.
Depuis, qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'a rien fait. Est-ce que mon pays vraiment tient à ses ressortissants? Est-ce que mes enfants français vont être défendus comme il se doit? Ou est-ce qu'on va les oublier et les vendre en échange de nouveaux contrats avec le Mexique? On s'est foutu de moi.
Et pourtant, le Mexique a signé la Convention de la Haye de 1980 sur les enlèvements internationaux d'enfants.
Cette convention prévoit un retour immédiat de l'enfant dans son lieu de résidence habituel en cas d'enlèvement, mais le texte est bafoué dans l'affaire Maud Versini. Situation semblable au Japon, où pourtant la convention est appliquée depuis le 1er avril. Une vingtaine de cas sont signalés à l'association SOS Papa, présidée par Jacques Collot. Lui-même n'a pas vu sa fille Marianne depuis 11 ans.
Le Japon a signé la dite convention sous la pression internationale. En pratique, les choses n'avancent pas véritablement. C'est-à-dire que lorsque les papas tentent paisiblement de prendre contact avec leur enfant, la police fait obstacle, menace le papa d'incarcération et les traite comme des voyous de cinquième zone. L'enfant est un bien de la mère et le père n'a absolument droit à rien.
Alors quand la convention de La Haye ne suffit pas, il reste la médiation familiale internationale dont l'objectif est de renouer le dialogue entre les deux parents pour trouver un accord. En France, un service dédié, rattaché au ministère de la Justice, a été fondé notamment par Danielle Ganancia, médiatrice. Elle appelle l'Union européenne aujourd'hui à donner l'exemple, à mettre en place un véritable réseau.
Si dans chacun des 28 États européens, il existait un service qui propose la médiation dans chaque cas de déplacement illicite, à ce moment-là, il y aura une coopération entre les États européens pour mettre en place des médiations dans des meilleurs délais. Et c'est la seule solution pour que les enfants véritablement puissent garder des liens à leurs deux parents.
En France, en 2013, le Bureau de l'entraide civile internationale a traité 212 dossiers d'enlèvement pour 18 médiations engagées. Mais seulement 7 d'entre elles ont conduit au retour d'un enfant.
Benjamin Illy pour le Zoom de la rédaction. Merci beaucoup. Sur Inter, il est 7h20.
L'édito éco avec Monster.fr. Site d'emploi, solutions RH et recrutement en ligne.
Bonjour Dominique Seux.
Bonjour Patrick.
Ce matin, vous intéressez à ce que nous consommons, à nos dépenses quotidiennes. L'INSEE publie ce matin une étude sur le sujet.
Oui, exactement, une étude qui fait le bilan de nos dépenses de consommation l'an dernier et qui, c'est là que c'est passionnant, permet de voir le poids, entre guillemets, de chacun de nos postes de dépenses. Le premier point à noter, c'est que cette photographie bouscule un certain nombre d'idées reçues. Ainsi, nous en parlons matin, midi et soir, mais nous ne consacrons en moyenne que 13% de notre revenu à l'alimentation, ça n'est pas forcément l'idée que l'on en a. Sachez aussi, pour l'anecdote, que le poste alcool-tabac représente plus du quart du budget alimentation. C'est un peu beaucoup, non? En revanche, l'habillement ne pèse, lui, c'est surprenant, que 4% de notre budget total, à peine plus que le tabac et les alcools. Dernière idée reçue, sur l'électronique, l'informatique, les télécoms, on sait que les ventes de smartphones ont explosé l'an dernier, ça c'est vrai, et ils absorbent une part considérable des espaces publicitaires, mais au total, nous ne leur consacrons que 1% en moyenne de notre budget, pas plus.
En quelques décennies, il y a des évolutions frappantes.
Oui, on parlait à l'instant de tout ce que l'on met dans nos frigos et nos assiettes. Eh bien, en 50 ans, la part de l'alimentation de notre budget a été divisée par 2. Mais elle est maintenant quasi stable, comme si on avait atteint un plancher ou parce que les prix ont augmenté. Les dépenses pour s'habiller, elles, ont plongé parce que la majorité des vêtements sont fabriqués en Chine ou en Turquie. Autre évolution notable, la part de nos dépenses consacrées à l'achat d'une voiture a sèchement reculé depuis 10 ans. Alors on dira, c'est la crise, mais il y a aussi le fait que les Français achètent davantage de petites voitures moins chères, comme si au fond, l'outil numérique dernier cri avait remplacé la voiture comme signe de modernité et d'affirmation de soi vis-à-vis des autres. Et Patrick, vous pourriez naturellement me dire à ce moment, vous n'avez parlé que de postes secondaires, quels sont les essentiels?
J'allais vous le demander.
Eh bien, moi, je vous réponds tout de suite. Le poste le plus lourd de nos budgets, c'est le logement. Et il est même presque 2 fois plus lourd qu'il y a 50 ans. Et il est même 10% plus lourd qu'il y a 10 ans. Nous consacrons 27% de notre revenu en loyer ou remboursement d'emprunt, en chauffage, en éclairage. C'est considérable et ça s'explique. Le prix des logements a flambé, le prix de l'énergie aussi. Le problème est que ce budget contraint pèse sur le pouvoir d'achat. Il bloque les mobilités professionnelles et constitue un vrai scandale pour les jeunes. L'Allemagne, elle, on le sait, n'a pas cette difficulté. Et voilà, nous arrivons au point essentiel de cette étude. Cette photographie devrait au fond guider les priorités de l'action publique. Priorité numéro 1, le logement. Priorité numéro 2, le logement. Priorité numéro 3, le logement. Vous savez ce qu'il faudrait, Patrick ? Qu'un motard de France Inter ou de l'INSEE porte immédiatement ces chiffres à tous les ministres et à l'Élysée. Bon, ça peut arriver par mail aussi, c'est vrai, ça fera des économies.
Dominique Seux pour l'édito Éco, merci et à demain sur Inter 7h24.
France Inter, le 7-9.
Bonjour André Manoukian.
Bonjour Patrick.
Vous nous présentez ce matin un nouveau venu au verbe bien pendu, le chanteur Leroy, ex du collectif de rap Cyan Supacru, son premier EP Château Rouge est sorti il y a quelques jours.
L'honneur est à la peine, les toilettes sont à la turque, l'éducation à la durée, le bonheur à la traîne. Une poubelle par la fenêtre, de l'urine sur les murs, le bitume titube et le ciel marche sur la tête. Quelques morceaux d'individus qui déambulent, un cœur à sauter du hamac à vive allure. Le flingue à la ceinture, même les rats font le mur et les chats coulent sous les dettes.
Spy Music, terme anglais pour désigner un genre inventé par John Barry, le génial compositeur des James Bond. Techniquement, l'effet vient d'un accord mineur dont la quinte monte par demi-tons, créant une tension croissante marquant une action risquée qui peut finir de manière explosive, mais portant l'assurance que le héros va s'en tirer avec panache. C'est l'histoire de l'audacieux Leroy. Voilà enfin le chaînon manquant entre le rap et la chanson, entre la musicalité rugueuse estampillée street credit et un gros son à l'anglaise pour chanson à texte. Les arrangements sont expressifs et pleins d'humour, les mélodies bien senties, la voix assurée, la classe américaine et l'humour du WAP. Leroy est le Perry Como du 18e arrondissement, le Frank Sinatra du 9-3, au charme lucide et dévastateur. Ne cherchez pas, on l'a trouvé. Texte profond dit avec légèreté. L'honneur est à la peine, les toilettes sont à la turque, l'éducation à la dure et le bonheur à la traîne. WAP de WAP. Wap, do wap.
Je ne mange pas, ne bois pas, je me saoule et me ronge. Je ne m'aime pas, je me dompte, ne me branche pas, je disjoncte. Je plonge, je ne dors pas, moi, je me noie dans mes songes. Je n'inspire pas, ne respire pas, je m'essouffle et me dégonfle. Je fais la course en tête, à fond, vers le mur de la honte. Je ne suis ni pour, ni contre, je ne me bats pas, je m'affronte. Je renonce, moi, je ne construis pas, je me démonte. Je fonce, je ne pleure pas, je m'inonde. Seul au milieu de la piste, je roule sans détour vers le fiasco. Je n'attends personne, je n'attends personne. S'il faut danser,
personne par Leroy en duo avec Féfé.
Si la tendance est au chant chez les rappeurs, ils se contentent souvent de faire le flow sur les couplets et laissent chanter les refrains à une sirène à reine belle, émettant des plaintes n'ayant d'autre but que de renforcer la virilité du lascar. Ouais. Ici, point de ça, Leroy nous sert de vraie chanson avec une faconde de matamor, façon Bébel quand il prenait son élan juste avant de faire une arnaque.
Je rêve d'un monde à part où les chiens promènent les maîtres, d'un hiver au soleil, d'un verbe à voir qu'a plus lieu d'être, un coin où les enfants de cœur confessent les prêtres et là où les bonnes sœurs aiment les films de gangsters. Interplanétaire depuis le préau, j'ai grandi dans la lune, made in Taïwan, gravé sur mes idéaux. Un peu triste médiocrate, je plane alors je rentre tellement tard qu'il est de plus en plus tôt. Un alien dans la tête depuis le berceau, le mental en miettes et les idées noires fluo. Allô Houston, je nage aux frontières de l'étrange et mon cœur de Pierre n'est plus étanche.
Sa lucidité teintée d'humour nous évite les lourdeurs de prêches indigestes ou d'imprécations obsolètes. Son regard sans complaisance sur lui-même, se moquant de ses faiblesses, de sa solitude, est plus fort qu'un témoignage et produit le curieux effet de galvaniser, de mettre la pêche et de se dire que, tant que le constat est lucide, la solution est fatalement là, tout près, puisque la moitié du travail est faite lorsqu'on nomme les choses. Et Leroy n'a pas son pareil pour mettre les mots justes là où il faut.
Au troisième sous-sol de ce qui me reste de matière grise, j'ai failli être un mec bien, je l'ai échappé belle. Je suis le colis suspect venu d'une galaxie parallèle. Je m'interroge, y a-t-il une vie
à... Merci à vous, André Manoukian. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h à Lyon en direct et en public des nuits de Fourvière. Vous recevrez notamment Louis Chédid dans 2 minutes sur Inter, 7h30.
Monsieur, c'est moi qui vous ai cambriolé. Depuis, je suis rongé par le remords. Aussi, je viens vous rapporter vos biens. Regardez, tout y est.
Mais c'est vrai, vous avez même astiqué l'argenterie.
C'est la moindre des choses. Je vous laisse, je dois me dénoncer à la police.
Oh, n'en faites rien, je vous pardonne.
Dans la réalité, il vaut mieux compter sur Protection Vol CIC. À partir de 19,50€ par mois, un système de télésurveillance détecte tout intrus et alerte un centre d'intervention qui agit si nécessaire.
CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Jusqu'au 30 juin, les frais d'installation et de mise en service sont offerts, voire conditions en agence. Service opéré par EPS.
Je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus avant de vous connaître.
La marche de l'histoire.
Rien ne peut m'empêcher de connaître que vous êtes né pour plaire. Toutes les femmes souhaitent de vous attacher.
Jean Lebrun.
Ainsi écrivait Madame de Lafayette, c'était au XVIIe siècle. Aujourd'hui, version plus tweet.
T'es très beau, tu plais à tout le monde, t'as connu beaucoup de femmes. Un jour, tu partiras pour en aimer une autre.
Tout à l'heure, dans la marche de l'histoire, la princesse de Clèves soi-même.
À partir de 13h30.
Le temps.
La météo avec l'Aude Pays Qatar. Entre cité de Carcassonne et Méditerranée, une destination sud de France Languedoc-Roussillon à découvrir sur audetourisme.com.
Jean-Michel Golinski, ça s'améliore aujourd'hui.
C'est vrai, seules les régions montagneuses ont gardé une pointe d'orage aujourd'hui. Partout ailleurs, l'amélioration sera souvent sensible par rapport à ces derniers jours, avec un temps bien bleu près de la Manche, autour de la Méditerranée et sur la Corse. Un ciel un peu plus variable avec éventuellement une ondée possible, des pays de la Loire au bassin parisien jusqu'aux Ardennes, ainsi que des Charentes au centre et dans le sud-ouest. Ouest. Par contre, à proximité du relief, surtout à partir de la mi-journée, les nuages vont devenir plus menaçants, avec des orages qui donneront parfois un peu de grêle vers les Savoies, l'Auvergne et le Jura, et puis un peu plus tard dans l'après-midi, du Morvan aux Vosges.
Merci d'écouter France Inter. Nous sommes le mercredi 11 juin 2014. Très bon réveil à vous tous, il est 7h30. Le journal vous est présenté par Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Un procès au-delà des faits. L'urgentiste de Bayonne, le docteur Bonnemaison, dans le box pour avoir fait mourir 7 personnes âgées. La fin de vie, l'euthanasie au palais de justice à défaut de l'arène politique. Taxi en grève, opération escargot et usagers en mode tortue sur le bitume, sur les rails aussi. Grève des cheminots très suivie, reconductible, comptez un train sur 3 en moyenne. Dans l'actualité encore, du triumvirat au Quator, l'UMP de la lutte au compromis, Luc Châtel en secrétaire général. Première action des blouses blanches sous la gauche, les chercheurs s'inquiètent pour l'avenir. L'Irak, les djihadistes ont pris Mossoul, auront-ils Kirkouk? Et puis la planète en jaune et vert, J-1 avant le coup d'envoi du mondial de foot au Brésil.
8h moins le quart, l'édito politique de Thomas Legrand. L'UMP crève du mythe du grand homme, dit-il. 8h moins 10, le patron de la fédération CGT des cheminots, Gilbert Garrel, avec Clara Dupont-Meneau.
Il dit avoir abrégé leur souffrance. Nicolas Bonnemaison comparé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Pau. L'urgentiste de Bayonne, 53 ans, radié en avril par le Conseil de l'Ordre, est accusé d'avoir empoisonné 7 personnes âgées, 5 femmes, 2 hommes, entre mars 2010 et juillet 2011. A-t-il outrepassé la loi Leonetti qui repose sur le principe du laisser-mourir? Au-delà des faits, c'est bien la question de l'euthanasie qui s'impose, d'autant que le projet de loi a disparu du calendrier politique. Corinne Audouin.
La défense du docteur Bonnemaison aimerait faire de son procès celui de l'euthanasie. Depuis 2005, la loi Leonetti permet de soulager les souffrances des patients en fin de vie, mais elle proscrit tout geste directement létal. Faut-il changer la loi ? Jean Leonetti, son auteur, se dit prêt à ouvrir le débat, mais pas sur ce cas particulier.
Il n'y a aucune loi au monde qui dise que le médecin a le libre arbitre d'abréger une vie sans en concerter avec personne et surtout sans en avoir reçu la demande. Je n'ai pas à juger des actes de M. Bonnemaison. S'il a soulagé les personnes en fin de vie, il a bien fait. S'il a donné la mort à des gens qui ne le demandaient pas, il a mal fait.
Le docteur Bonnemaison a sans doute agi hors de tout cadre en n'informant pas clairement les familles. Pour autant, aucune n'a porté plainte. Elles sont unanimes à reconnaître l'humanité et l'empathie du médecin. La femme d'un des patients, Patricia, viendra même le défendre à la barre. Elle répond à Paul Nicolai.
Je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre ce procès. Il est comme un criminel alors qu'il a fait que du bien. Cet homme, il était bon avec moi, il a été gentil. Il est venu, m'a pris dans ses bras parce qu'il a vu ma douleur, il a compris. J'attends que le moment où je pourrais l'embrasser, le prendre dans mes bras. Comme il a fait avec moi.
Nicolas Bonnemaison a-t-il voulu soulager la douleur de ses patients ou s'est-il arrogé seul le droit d'abréger leur vie ? La question sera au cœur de son procès.
Et le procès va durer 3 semaines. Le docteur Bonne-Maison risque la perpétuité.
Il est 7h33 sur Inter. La grève des cheminots a commencé pile à 19h hier soir.
Ouais, c'est surtout ce matin et ce soir, aux heures de pointe, que ça s'annonce très très compliqué sur les rails. Plus de 4 cheminots sur 10 en grève. Chez les contrôleurs et les conducteurs, c'est même plus d'un sur deux mobilisés contre la réforme ferroviaire. En moyenne, comptez un TGV sur 3. Attention, entre Cannes et Nice, le trafic est quasi au point mort. Un TER sur 6, 1 sur 7. Entre Nice et Marseille, on y reviendra dans le journal de 8h. Grosse pagaille aussi en région parisienne et la grève est reconductible. Il y aura des AG de cheminots un peu partout aujourd'hui. Peu de trains donc, pas de taxis non plus. Décidément, c'est bien bouché. Les taxis sont en grève dans la plupart des grandes villes européennes, mobilisés contre la concurrence jugée déloyale des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur, à Lyon, Marseille, Paris là aussi. Et ça commence autour des aéroports, Roissy, Orly, avant les opérations escargot. Pour l'instant, Gérald Dinalo, vous êtes à Orly, c'est l'heure de l'appel général.
Oui, les plus matinaux, ce sont les Bretons. Ils sont arrivés à Orly-Ouest des Potrons-Minet après avoir roulé toute la nuit. Jean-Claude Garnovet est le vice-président de la Fédération des taxis indépendants du Morbihan. Il a le bonnet rouge au ras des yeux.
On est parti à minuit hier soir et on a roulé toute la nuit pour être ici à 6h ce matin. On ne vient pas souvent à Paris, mais quand on vient, on vient. Et on se fait remarquer. L'heure est grave et là, on n'a jamais été aussi en danger qu'aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. On en a vu des crises de tous ordres. Mais là, cette fois-là, vraiment, on sent qu'on est en train de mettre à mal notre profession.
Le cœur du problème, c'est le rapport Thévenoud, disent les chauffeurs de taxi. Selon eux, il ne mettra pas fin à la concurrence déloyale que leur livrent les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. Georges Palais est le président de l'Union de défense des taxis parisiens.
La concurrence déloyale, déjà, c'est qu'ils sont en train, ils racolent dans les aéroports. D'autre part, ils stationnent sur la voie publique, ils n'ont pas le droit de stationner sur la voie publique. Et d'autre part, ils ne payent pas les mêmes charges que nous. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on en a un peu marre aussi qu'on nous prend pour des idiots, quoi, pour des imbéciles.
Pour l'instant, une 50aine de taxis s'est rassemblée au niveau arrivée d'Orly Ouest. Ça continue d'arriver de toutes parts à un rythme soutenu. À 10h, les taxis prendront la direction de Paris et de l'école militaire via la 6A et le périphérique Ouest. Opération escargot sur 2 voies. Autant vous dire que les embouteillages s'annoncent particulièrement costauds.
Géraldine, allô, en direct d'Orly avec Frédéric Kérou pour la technique. Le mouvement des intermittents contre la réforme de leur assurance chômage et la tache d'huile. La grève se poursuit à Montpellier, à Toulouse. 8 théâtres ont baissé le rideau. Baisse le rideau à partir d'aujourd'hui. À Châlons, en Champagne hier, spectacle de rue annulé. Annulé encore la soirée d'ouverture du festival de théâtre d'Anjou. 1400 spectateurs, le bec dans l'eau hier. Les matières grises broient du noir. Autre mouvement aujourd'hui, celui des chercheurs. C'est leur premier coup de semonce sous la gauche avec manifestation et réunion extraordinaire du comité national. Les scientifiques, chercheurs, universitaires s'inquiètent. La France perd du terrain, disent-ils. Il n'y a pas assez de postes pour les jeunes. Pour Alain Trautmann, membre du comité national, il est plus que temps de tirer la sonnette d'alarme.
Ces postes sont indexés sur les départs à la retraite et la combinaison de la pyramide des âges et de la réforme de la retraite fait que, par exemple, en 2008, au CNRS, il y avait 400 postes mis au concours, 300 en 2013 et les perspectives, c'est moins de 200 en 2017.
Et la secrétaire d'État à la recherche, elle refuse de parler de dégringolade. Geneviève Fiorazzo concède toutefois la précarisation de la recherche publique.
La structure des emplois a évolué. Il y a eu en 6 ans l'ordre de 300 emplois de moins. Effectivement, les contractuels qui étaient des emplois pérennes, des CDI, eh bien, ont été remplacés par des contractuels sur projet. Ça s'est fait donc des emplois qui sont un peu compliqués à gérer parce que vous vous rendez bien compte que dans la période, on ne va pas créer des emplois de fonctionnaires, ni même des CDI. Ce qu'il faut, c'est que les entreprises accueillent davantage les chercheurs. Le problème, il est là.
La réaction recueillie par Sophie Bécherel. Bouygues Télécom veut continuer la route en solo. Pour ça, une seule solution, la cure d'austérité. Une question de vie ou de mort, dit la direction de Bouygues, qui pourrait supprimer jusqu'à 2000 postes. Purge détaillée cet après-midi en comité central d'entreprise. L'UMP fuit le conflit et fait le choix du consensus, en tout cas pour le moment. Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, François Fillon prennent la direction provisoire du parti. Ça, c'était plus ou moins annoncé. Et voici le geste pour les sarkozystes. Luc Chatel, nommé secrétaire général. générale. Le bureau politique de l'UMP hier a coupé la poire en deux. On y reviendra avec votre invité Patrick Alain Juppé à partir de 8h20. Pendant ce temps, au Front National, la fille se rebelle. Après la petite phrase sur la fournée, Marine Le Pen désavoue son père. On a appris hier que le blog de Jean-Marie Le Pen ne serait plus hébergé sur le site du parti. Jean-Marie Le Pen emploie les grands mots, trahison, lâcheté, mais pour de nombreux cadres FN, c'est une bonne chose. C'est ce que dit en tout cas le député européen Front National, Nicolas Bay.
Le dialogue entre eux a vocation à être établi. Que sa réaction soit très vive, c'est sans doute parce que ça le touche à titre personnel, mais encore une fois, Marine Le Pen est parfaitement dans son rôle. Elle a toute légitimité, encore une fois, en tant que présidente du Front National, garante de son unité, a toute légitimité pour éventuellement faire un rappel à l'ordre, y compris à l'égard de Jean-Marie Le Pen. Je crois simplement qu'il faut rapidement tourner cette page pour que les Français voient à nouveau, dans les jours qui viennent, que le Front National est et demeure à la fois uni et surtout en première ligne pour défendre leurs intérêts vitaux face à une UMPS qui les a abandonnés et trahis.
Le secrétaire général adjoint du FN, joint par Nasser Madji. À l'étranger, l'Irak et la reconquête des islamistes. Mossoul, la deuxième ville du pays, est tombée hier entre les mains de centaines de djihadistes et ils progressent dans deux autres provinces, notamment dans la région de Kirkouk. Le premier ministre irakien demande l'état d'urgence. Et puis à la veille de la première visite du ministre de l'Intérieur, le syndicat de police, unité SGPFO, demande à ce que le gouvernement reconnaisse clairement qu'il y a de la mafia en Corse. Le syndicat dénonce pas assez d'argent pour protéger les repentis, des milliers d'heures supplémentaires non payées et un stock de dossiers en cours qui correspondrait à 9 ans de travail. Bernard Cazeneuve arrive ce soir en Corse pour une visite de 24 heures.
Il est 7h39 sur Inter, le coup d'envoi du mondial J-1.
Oui, coup de sifflet avec le Brésil-Croatie à Sao Paulo demain. Et l'optimisme hier soir affiché, volontaire de la présidente Dilma Rousseff. Elle coupe court à toutes les critiques. Le Brésil est prêt, sûr et en dehors des terrains. Les Bleus, quant à eux, ont eu leur premier entraînement sur place hier devant plusieurs milliers de supporters. Un bon moment pour le sélectionneur Didier Deschamps.
C'est très agréable. Il n'y a pas de pression supplémentaire. Les gens sont derrière nous, ont envie d'encourager cette équipe. On le fera de toute façon. Pas tout le temps, là. Pas suffisamment à vos yeux certainement, mais on gardera le contact avec les gens qui sont là et qui ont envie de nous voir. Donc oui, il y a beaucoup de joie, ça se voit, ça se ressent, et des prédispositions qui sont, ou des dispositions plutôt, qui sont très bonnes dans le travail aussi.
Voilà, Didier Deschamps avec Julien Brigot, les Bleus et leur premier match dimanche face au Honduras. Enfin, c'est presque une croisade. L'Église part à la reconquête du territoire français. Alors que les clochers ferment un à un dans les campagnes, d'autres s'élèvent là où il y a du monde. L'église Saint-Paul-la-Plaine en Seine-Saint-Denis, par exemple, inaugurée il y a quelques jours en plein cœur d'un quartier économique. 50 000 employés des sociétés comme Orange ou SFR. L'église drague l'école blanc. C'est un reportage de Martin Bartoletti.
Une pause déjeuner qui sort de l'ordinaire pour une petite dizaine d'employés venus assister à la célébration. Ils sont ingénieurs, médecins ou encore comptables au menu, nourriture de l'esprit dans ce nouveau bâtiment totalement ouvert sur l'extérieur. Joseph Boucher est bénévole et a pour mission de favoriser le lien entre les cadres du quartier et ce nouveau lieu de culte.
Certaines personnes se disent, mais existe-t-il encore des chrétiens ? Oui, en passant en voiture, en autobus, ils constatent par la grande fenêtre qui se trouve près de l'hôtel qu'il y a des chrétiens qui se rassemblent là tous les midis.
Et ça fonctionne.
Je suis passé là et j'ai vu qu'il y avait une messe, donc je suis rentré tout simplement.
Daniel est commercial et n'aura aucun mal à faire rimer célébration et emploi du temps.
Si vous prenez une coupure d'une heure et que vous avez une demi-heure de messe, bah il vous reste une demi-heure pour manger un petit peu avec deux autres personnes, c'est bien.
Une implantation réfléchie, une architecture efficace et même un site internet. L'église Saint-Paul-la-Plaine s'est adaptée à sa cible et drague clairement l'école blanc. Des termes qui ne gênent pas du tout Jean-François Reynaud, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de la Plaine Saint-Denis.
Non, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'école blanc, ce sont des gens qui travaillent dans des bureaux. L'église drague, bah oui, elle drague. En communication, dans l'entreprise, on fait beaucoup de com, on fait de marketing. Pourquoi on n'en ferait pas avec l'église ?
Les diocèses françaises mettent donc dans le sillage du pape François, celui de la modernité.
D'école blanc pour remplir les bancs de la messe de midi, fallait y penser.
Merci. C'était Hélène Roussel sur Inter pour le journal. Dans un instant, la suite, l'édito de Thomas Legrand sur l'UMP et le Quatuor.
L'infotrafic SNCF.
Aujourd'hui, le trafic des trains est perturbé. Pour connaître les trains qui circulent, allez sur sncf.com.
Ou par téléphone, appelez pour le réseau transilien le 0805 700 805.
Et pour les TER et les trains grandes lignes en France et en Europe, le 0805 90 36 35. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Il est 7h43.
Le 7-9 de France Inter.
Patrick Cohen.
Le mot du jour, triumvirat, la version latine de la troïka russe. Vous verrez les deux termes dans vos journaux ce matin. Triumvirat comme sous la Révolution, troïka comme sous Staline. Sauf qu'entre-temps, le trio Juppé-Raffarin-Fillon a dû composer avec le cobayiste Luc Châtel. Le triumvirat est devenu quatuor ou bande des quatre comme sous Mao. Quatre comme les trois mousquetaires ou comme les frères Jacques de l'UMP, qui ont ainsi chassé Jean-François Copé.
Sors d'ici,
sors d'ici,
fous-moi le camp,
fous-moi le camp,
sors d'ici,
sors d'ici,
tu m'entends,
tu m'entends.
Déjà la honte de ta famille, fallait aussi que tu perdes ma fille.
Je ne sais pas, vois-tu ce qui me retient, dans le plaisir de te casser les reins,
pour retrouver celle qui t'attend.
Sors d'ici, c'était les frères Jacques sur Inter ce matin. Bon, on va essayer de ne pas basculer dans n'importe quoi, mais on a du mal. Bonjour Clara Dupont-Monod.
Bonjour.
Votre invité ce matin.
Gilbert Garrel, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. La grève dans les chemins de fer a commencé hier soir, mais pourquoi ça n'avance pas? À tout de suite.
Il est 7h44.
France Inter, le 7-9.
L'édito politique, bonjour Thomas Legrand.
Bonjour Patrick.
L'UMP s'est donc choisi trois chefs et un sous-chef.
Oui, l'idée c'est de geler la compétition, le temps d'ouvrir les placards de l'UMP et de finir de découvrir l'ampleur des dégâts de la gestion sarkozo-copéienne de la campagne de 2012 et de ses suites. En attendant, interrogeons-nous sur ce qu'est l'UMP. Qu'est-ce que l'UMP? Qui peut dire ce que contient politiquement et idéologiquement l'UMP d'aujourd'hui? Qui peut dire même ce que signifie cet acronyme fourre-tout UM et P? L'Union pour un mouvement populaire n'a jamais aussi bien porté son nom à la fois pompeux et creux. Qui peut dire quels sont ces philosophes, ces économistes de référence? Le U, c'est donc pour Union, mais de qui? Où sont les républicains indépendants, les gaullistes autoritaires ou sociaux, les démocrates chrétiens, les radicaux, les libéraux? Ces forces politiques enracinées dans le terreau de la droite française ont fini par se dissoudre dans un vague libéralisme tempéré de colbertisme atavique bien de chez nous, nimbé de populisme paniqué par la mondialisation et la montée du FN. Moralité, la pensée de l'UMP est un magma composé des strates, des lubies opportunistes et tactiques de Chirac et Sarkozy qui ont tout mélangé pendant 10 ans. Jacques Chirac était libéral autoritaire en 88, gaulliste social en 95 avec la fracture du même nom, sécuritaire après, bon papa républicain consensuel en 2002 face à Le Pen, écologiste à la fin de son deuxième mandat.
Oui, il a même voté Hollande en 2012.
Oui, sans doute sur sa lancée, il votera communiste en 2017. Nicolas Sarkozy, baladurien 440 en 95, pouvait citer Jaurès en 2007, supprimer la double peine en 2005 et se prononcer pour la déchéance de nationalité en 2010, ouvrir à gauche en 2007, droitiser en 2012 au gré d'onéreuses études d'opinion fournies par un inspirateur maurassien et paranoïaque. Cet affaissement de la pensée théorique de la droite est aussi le fruit de nos institutions. La surpuissance du président élu façon plébiscitaire a rendu la droite addicte à l'homme providentiel qui doit être à la fois César et Joséphine Ange-Gardien, les prétendants à la tête de l'UMP, élaborent des programmes dont l'élément principal est leur détermination, leur courage. C'est leur équation personnelle propre à inspirer confiance plus qu'un corpus idéologique propre à convaincre qui est mise en avant. Et le plus gonflé à ce jeu reste bien sûr Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, depuis que l'on parle de son retour, personne ne se demande avec quelles idées le sait-il lui-même. Bien des cadres de l'UMP sont exténués des ravages de la dérive personnaliste de leur mouvement. Le spectre du retour de Nicolas Sarkozy renvoie en ce moment au visage de bien des dirigeants qui n'hésitent pas à le dire en off, tout ce qu'ils ne veulent plus voir, le gaullisme sans De Gaulle mais avec les institutions faites pour lui, c'est vraiment lourd pour la politique française en général et pour la droite en particulier, mais nous sommes dans la 5ème République, alors il faut en passer par un minimum de personnalisation. Un parti néo-gaulliste peut-il engendrer une personnalité qui ne se présentera pas comme omnipotente et qui s'appuiera sur la force de ses idées plutôt que sur ses qualités autopromues? Il faut attendre le congrès en novembre pour le savoir. Les élections de droite sont-ils prêts à renoncer au sauveur suprême? Là, il faut attendre les primaires pour le savoir.
C'était Thomas Legrand sur Inter, il est 7h47.
L'écho du jour avec Page Jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises. Rendez-vous sur www.site.pagejaune.fr.
Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour.
La Commission européenne s'attaque à l'optimisation fiscale des grandes entreprises.
Elle devrait lancer officiellement aujourd'hui une enquête en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Son but, selon le Wall Street Journal qui révèle l'information, vérifier si ces pays n'ont pas accordé accordé à de nombreuses firmes multinationales des régimes fiscaux trop favorables, au-delà de ce que permettent les règles européennes. Google, Starbucks, Amazon et d'autres sont accusés d'en avoir bénéficié. Apple également, une commission d'enquête parlementaire américaine, il y a quelques mois, avait révélé un montage fiscal passant par l'Irlande, lui permettant de ne payer aucun impôt sur un chiffre d'affaires pourtant chiffré à des dizaines de milliards de dollars. Plus la France s'endette, moins ça lui coûte. Ce n'est pas tout à fait exact comme affirmation, mais presque. Selon les Échos, le collectif budgétaire présenté ce matin revoit à la baisse la charge de la dette française. 1,8 milliard de moins que prévu. On ne s'endette pas moins, mais les intérêts à payer sont en très net recul.
L'histoire du jour, Macron économiste.
Ça n'a pas traîné. Sitôt sa nomination annoncée sur Twitter, circulait déjà sa dernière tribune publiée dans le journal L'Opinion fin mai. Tribune au vitriol sur la politique française où presque tout était dans le titre. Arrêtons le massacre. Lawrence Boone, chef économiste de Bank of America, Merrill Lynch, ne prenait alors pas de gants. Les choix de politique économique de la France sont quasiment inexistants, écrivait-elle. Le programme de Manuel Valls, il ne vise ni à soutenir la demande à court terme, ni à élever le potentiel de croissance de long terme. Son plan d'économie, un énième coup de rabot, synonyme de non-choix, tranchait encore Lawrence Boone, qui concluait ainsi sa tribune. Sans changement, la France, dans 3 ans, c'est 3 millions de chômeurs, 3-4% de déficit, une dette à 100% et des jeunes diplômés qui continuent à s'installer à l'étranger. C'est donc cette même économiste qui désormais conseillera François Hollande à l'Élysée. Mi-juillet, elle remplacera Emmanuel Macron, alors pas poste à poste, elle ne sera pas secrétaire générale adjointe, mais bien chargée des questions économiques et financières. Alors, malgré les apparences, c'est un choix de continuité, les profils sont proches. Macron comme Boone viennent de la banque, du secteur financier. Ils sont également proches des milieux patronaux. Lawrence Boone siège au conseil de Kering, le groupe de François-Henri Pinault. Avec elle à l'Élysée, la ligne pro-entreprise de François Hollande est confortée, commentait hier soir un député. Pas de virage dans le virage en vue. Les économistes qui la connaissent bien confirment. Laurence est sur la ligne dominante. Elle préconise une réduction rapide et massive du déficit, appel de ses voeux, des réformes jugées incontournables. Flexibilité du marché du travail, réforme de notre modèle social devenu trop coûteux en cette période de croissance réduite. Les uns et les autres, pour ou contre ces prises de position, se disent en tout cas rassurés, sans doute dans une sorte de réflexe corporatiste. Lawrence Boone est une économiste de formation, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Elle sait manier, elle, un modèle macroéconomique, disent-ils. Elle sera donc, ou du moins aura conscience, des conséquences que peuvent avoir les choix politiques. Elle sait à quel point, disent-ils encore, le contexte est primordial dans la recherche jusqu'ici vaine d'un équilibre entre réformes structurelles, réduction des déficits et croissance.
C'était Philippe Lefébure sur Inter, il est 8h10.
France Inter, le 7-9.
Votre invitée, Clara Dupont-Mono, est secrétaire générale de la CGT Cheminots.
Bonjour Gilbert Garrel.
Bonjour.
Les cheminots sont en colère contre le projet de réforme ferroviaire qui doit donc réunir la SNCF et RFF, Réseau Ferré de France, les trains donc, et le rail. Réunir la famille cheminote, pourquoi vous êtes contre?
Parce que ce n'est qu'une réunion de façade. C'est une réunion qui nous avait été annoncée en 2012 et quand on regarde le projet de loi aujourd'hui, on passe de 2 entreprises publiques à 3. 3 entreprises qui seraient autonomes, indépendantes, qui ne créeraient pas les conditions, que les cheminots retravaillent ensemble, qui ne créeraient pas les conditions qu'on fasse un vrai service public ferroviaire dans une entité qui soit confortée.
Mais une entité 100% publique, a précisé le ministre, Frédéric Cuvillier.
Une entité 100% publique qui n'existe pas dans la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Où on a 3 EPIC, 3 entreprises publiques, où on a un grand groupe, qu'on appelle groupe public, mais qui est composé de plus en plus de filiales. Et nous disons, nous, au ministre, véritablement, ces 3 EPIC, ce système ferroviaire, il faut réellement le lier, créer des liens sociaux, créer des liens économiques, créer des liens techniques et juridiques qui n'existent pas aujourd'hui dans la loi.
Alors, le but est aussi quand même d'endiguer la dette du système ferroviaire, qui s'élève pour l'instant à 44 milliards d'euros. Si on ne fait rien, elle va atteindre 80 milliards d'euros en 2025. La réunion de RFF et SNCF, même si c'est un monstre à 3 têtes, est quand même là pour endiguer la dette.
Vous savez, aujourd'hui, il y a effectivement 40 milliards de dettes. Quelle est cette dette? C'est une dette structurelle issue de la création des LGV et c'est une dette qui est issue des premiers travaux de régénération du réseau qui ont bien tardé à venir. Donc c'est une dette d'aménagement du territoire. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, Frédéric Cuvillier dit on va endiguer la dette, on va la bloquer. Mais il continue à dire il manque 1,5 milliard à 2 milliards par an pour faire les travaux nécessaires. Et quand on en arrive là, comment il dit comment on va régler 1,5 milliard à 2 milliards? C'est par la productivité. Donc c'est par une régression sociale, c'est par le travail des cheminots et c'est par... réduction d'emplois, on le voit dès cette année, 2500 suppressions d'emplois à la SNCF, c'est par une régression sur les conditions de travail, et puis je vais y venir, c'est aussi par une hausse des tarifs. Parce que bloquer la dette, alors, quand on dit c'est les Français surtout, une grosse partie de la dette est payée par les cheminots quand même. Quand on a vu qu'on a supprimé près de 13 000 emplois depuis 2008, l'arrivée de Guillaume Pépi à la SNCF, les cheminots ont largement payé, puisque 13 000 de suppressions d'emplois avec un trafic qui ne cesse d'augmenter.
Est-ce que vous êtes pour la démission de Guillaume Pépi ?
Mais la démission de Guillaume Pépi ou l'admission de Guillaume Pépi, ça n'appartient pas à la CGT, c'est une responsabilité de l'État. Après, que l'État fasse un bilan de ce qu'il a fait depuis 2008 et de ce qui s'est passé à la SNCF. J'allais y venir sur la question de la dette et du financement nécessaire. Aujourd'hui, si on n'arrête pas d'augmenter, RFF, mais qu'il soit RFF dans SNCF Réseau ou RFF indépendant, n'arrête pas d'augmenter le prix des sillons, ça se répercute directement à la fois sur le tarif, mais aussi sur la suppression de trains, et je parle notamment des trains de marchandises.
Alors l'âge moyen du départ à la retraite des sédentaires et des agents de conduite est situé entre 51 ans et 56,5 ans. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'enjeu social caché de cette grève?
Ah ben ça nous fait vraiment marrer, quoi. Parce qu'on nous a dit que les cheminots ne travaillaient pas assez longtemps, il faut réformer le système de retraite spécifique des cheminots. Et puis aujourd'hui, Guillaume Pépi met en place un plan de départ volontaire. C'est quand même un peu aberrant, quoi. On nous dit qu'il faut travailler plus loin et maintenant on payerait des gens pour partir avant leur date limite.
Mais c'est deux choses différentes.
C'est pas deux choses différentes. On reconnaît aujourd'hui qu'il y a des cheminots qui restent à la SNCF, qui ne partent plus parce que leur retraite sera trop inférieure. Et Guillaume Pépi, qui veut supprimer les emplois, met un plan de départ volontaire et abonde ce plan de départ volontaire. C'est quand même un peu stupéfiant de voir ça.
Alors, dans cette réforme, Gilbert Garrel plane aussi l'ouverture à la concurrence. Est-ce que c'est un mot tabou? C'est un mot qui fait peur à la CGT?
Ah, moi, il fait pas peur à la CGT, hein. Il fait peur à tout le monde, quoi. On nous a dit en 2003...
Surtout à la CGT,
non,
quand même.
On nous a dit en 2003, on va ouvrir à la concurrence le fret. Vous allez voir, ça va aller mieux. On a généralisé tout le trafic fret à la concurrence en 2006. On transportait à l'époque 55 milliards de tonnes de kilomètres par la SNCF. Aujourd'hui, on est tombé en dessous de 30 milliards de tonnes de kilomètres. Tout le reste est basculé à la route. Alors quand on nous dit la concurrence, ça va être mieux, il va falloir quand même nous l'expliquer. Nous, on a un exemple sur le fret, quoi, qui est quand même assez affligeant.
Et en même temps, c'est prévu de toute façon en Europe, entre 2019 et 2022, c'est inéluctable.
Mais c'est pas inéluctable, c'est la volonté d'une commission des transports européennes, c'est la volonté de Siim Kallas, d'un ultra-libéral, mais après ça doit être voté par les parlementaires européens et ça doit être accepté par le Conseil de l'Europe, donc par les ministres. Aujourd'hui, nous disons, nous, la France, la place qu'elle tient dans l'Europe, il y a possibilité à la fois par les parlementaires et à la fois par le gouvernement de s'opposer à cette libéralisation du rail qui, dans tous les pays d'Europe où elle a été mise en place, contrairement à ce qu'on peut dire, a généré une belle de qualité, une baisse de sécurité et une explosion des tarifs.
Donc
Angleterre,
il faut le faire,
Suède, etc.
Donc il faut le faire, mais façon CGT.
Mais on ne demande pas l'ouverture à la concurrence, nous, on demande un grand service public national. Donc on demande un monopole public de la SNCF, oui.
Depuis 2009, la CGT baisse lors des élections professionnelles de façon assez régulière. En 2009, on était à 39,3%, maintenant en 2014, 35,6%. Est-ce que cette grève, c'est une façon pour la CGT de reprendre la main dans le jeu social, de montrer un peu les muscles?
Moi, il n'y a pas d'objectif ni électoraliste ni populiste, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu consultation des militants CGT, consultation de nos syndiqués. Nous avons expliqué la réforme, nous avons décrypté son contenu. Elle n'est pas acceptée, mais par les syndiqués, mais aussi, on le voit aujourd'hui, avec plus d'un cheminot sur deux en grève, par les cheminots. Donc la CGT joue exclusivement son rôle de syndicat et ne regarde pas les résultats électoraux qui montent, qui baissent, etc. On n'est pas sur...
Un petit peu quand même, vous avez un petit œil quand même sur les résultats
des
élections professionnelles.
Mais bien sûr qu'on a un résultat, c'est une approbation ou une désapprobation du travail qu'on fait. Mais quand on pèse 36% à la SNCF, je trouve quand même qu'il y a toujours approbation et large par le corps social de la SNCF de notre travail.
Un dernier mot rapidement, Gilbert Garrel. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a prévenu que le 16 juin, ce seraient les épreuves du baccalauréat. Il a demandé du coup aux cheminots de faire le service minimum pour les lycéens. Est-ce que vous le ferez ?
Moi, je demande à Guillaume Pépi de faire, et au gouvernement et au secrétaire d'État au transport, de faire arrêter la grève. Il nous rencontre demain. Il n'a qu'à répondre à nos exigences et les cheminots reprendront le travail.
Merci Gilbert Garrel. Bonne journée.
Merci à vous. 8h dans 3 minutes sur Inter. Voici l'éphéméride de Frédéric Pommier.
11 juin 1981, un cannibale japonais bouffe une de ses copines dans son studio à Paris. En arrivant en France, Issei Sagawa avait deux projets. Passer un doctorat en littérature et surtout se trouver une nana jolie à croquer.
Cet homme est un anthropophage.
Croquer au sens propre du terme, car il était depuis longtemps tenaillé par l'idée de manger de la chair humaine. C'est en CP que m'est venue l'envie. En regardant les cuisses d'un camarade, je me suis soudain dit « Miam, ça a l'air délicieux ».
Pour cette première épreuve, les candidats devront revisiter les grands classiques de la gastronomie parisienne.
Mais ce 11 juin, c'est sur une étudiante de la Sorbonne qu'il va passer à l'acte. Elle est néerlandaise et il lui a demandé de venir enregistrer chez lui de la poésie allemande. Or, à peine commence-t-elle à lire, Issei Sagawa lui tire une balle dans le dos. Il peut passer à l'heure à la dégustation. Pour commencer, il goûte les fesses. Il trouve qu'elles ont un goût de maïs, ensuite la langue, ensuite un sein. Et le meilleur, c'était le cou, expliquera-t-il aux policiers qui l'arrêteront trois jours plus tard.
J'ai l'impression que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour réussir un menu parfait.
Depuis, il a écrit de nombreux livres sur son macabre festin et même fait de la publicité pour un restaurant de viande. Nous aurions pu parler aussi du 11 juin 1953, date de la naissance du faucheur de maïs José Bové.
Tout ça, c'est du baratin.
Nous aurions pu, de même, évoquer le 11 juin 2012, quand Valérie Trier-Weller se mit à réfléchir au tweet qu'elle enverrait le lendemain pour soutenir l'adversaire de Ségolène Royal aux législatives.
Je tournerai 7 fois mon pouce maintenant avant de tweeter.
D'où ma question. Lorsque Ségolène a vu le tweet de Valérie, n'a-t-elle pas eu envie de la bouffer ?
Frédéric Pommier, dans un instant la météo.
Le cambriolage de votre maison, madame, c'est moi. Ne pouvant vivre plus longtemps avec le poids de cette faute, j'ai décidé de vous rendre vos biens et de replanter le massif de bégonia que j'ai piétiné en escaladant le portail.
Écoutez, c'est très gentil.
Dans la réalité, il vaut mieux compter sur Protection Vol CIC. À partir de 19,50€ par mois, un système de télésurveillance détecte tout intrus et alerte un centre d'intervention qui agit si nécessaire.
CIC, construisons dans un monde qui bouge. Jusqu'au 30 juin, les frais d'installation et de mise en service sont offerts, voire conditions en agence. Service opéré par EPS.
Le temps.
La météo avec l'Aude Pays Qatar. Entre cité de Carcassonne et Méditerranée, une destination sud de France Languedoc-Roussillon à découvrir sur audetourisme.com.
Jean-Michel Golinski, globalement, du beau aujourd'hui.
C'est vrai, seules les régions proches des montagnes vont garder aujourd'hui un risque orageux. Partout ailleurs, l'amélioration sera de taille par rapport à ces derniers jours, avec beaucoup de bleu aujourd'hui près de la Manche, autour de la Méditerranée et sur la Corse. Un ciel peut-être un peu plus variable, avec éventuellement une ondée, des Pays de la Loire au bassin parisien jusqu'aux Ardennes, des Charentes au centre et dans le sud-ouest. Par contre, en proximité du relief, surtout à partir de la mi-journée, les nuages vont devenir menaçants avec des orages, parfois de grêle, vers les Savoies, l'Auvergne et le Jura, et un peu plus tard dans l'après-midi, vers le Morvan et les Vosges. Le risque orageux sera plus faible pour la chaîne des Pyrénées et le sud des Alpes.